Tout va bien. Mangeons Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Déborah, bonjour.
Bonjour Virginie.
Comment allez-vous, Déborah ?
Eh bien, écoutez, ça va très bien. On rentre de vacances, donc ça va, on ne peut mieux.
Alors écoutez, je suis enchantée de vous accompagner sur vos émissions consacrées donc à l'alimentation et à notre rapport à la nourriture. Bref, que de bonnes choses. Alors une nouvelle saison commence et je pense qu'avec vous, nous allons en apprendre énormément sur notre manière de consommer. Déborah, vous avez profité de l'été pour nous concocter de nombreux sujets d'émission. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Nous allons parler du régime cétogène parce que c'est la rentrée, comme on vient de le dire. Et comme dans toute rentrée, beaucoup de personnes vont vouloir se lancer dans un régime pour essayer de perdre plutôt rapidement leurs kilos qu'elles ont acquis durant l'été. C'est un peu un grand classique. À chaque saison, en fait, personne se lance dans un régime. Et parmi les régimes qui sont tendance et qui s'installent en fait de plus en plus dans le temps, effectivement, nous retrouvons le régime cétogène, encore appelé le keto par les anglo-saxons. Et en fait, les résultats obtenus par ce régime semblent à première vue assez spectaculaires, notamment sur le poids et sur l'hémoglobine glycée pour les personnes qui sont diabétiques. Mais qu'en penser réellement en fait ? Et justement, je vous propose qu'on relate dans cette émission les grandes lignes et surtout les dangers possibles de ce régime, à savoir qu'en penser vraiment concrètement.
Très bien, parfait. Déjà, ça commence bien. On va se faire belles et beaux pour la rentrée. Donc, le régime cétogène, alors effectivement, il a un nom un peu étonnant. Donc, vous en avez déjà parlé en introduction il y a 2 secondes, mais vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est et sur quel principe repose ce régime.
Oui, c'est un régime qu'on peut on peut l'entendre sous différentes appellations. Le plus fréquent, en réalité, c'est cétogène ou keto. Et en fait, ce régime, c'est un régime dans lequel l'apport en glucides, c'est-à-dire en sucre, est quasiment nul. En fait, l'énergie qu'on va avoir, qu'on va tirer, va surtout être apportée par ce qu'on appelle les matières grasses, donc les graisses. Et donc, c'est la grande caractéristique de ce régime. Et en fonction de ce grand principe, on a 3 types de régimes qui sont spécifiques vraiment en fonction de la proportion de graisse, de lipides utilisés par rapport aux protéines et aux glucides au niveau de l'équilibre en fait, entre les macronutriments, protéines, lipides, glucides. C'est le lipide en fait, qui va prôner le plus possible. Donc, dans un des types qu'on peut retrouver, c'est le régime cétogène plutôt classique où l'apport en graisse est supérieur de 3 à 4 fois celui des protéines et des glucides. Et donc, dans ce cas-là, on doit avoir un calcul scrupuleux de chacun des nutriments et donc prévoir à chaque prise alimentaire ce fameux calcul. Je vous laisse déjà imaginer la prise de tête et la peur que ça pourrait générer quand à chaque fois qu'on doit aller manger, on doit avoir ce calcul en tête.
Oui,
c'est pas.
On fait des maths, on ne mange plus, on fait des maths.
Ça, on fait des maths, c'est-à-dire qu'on n'est plus présent, quoi. On est dans nos réflexions permanentes. Mm-hmm. Donc ça, c'est la première phase, enfin, pas la première phase, mais la première, on va dire, version du régime qui est la plus répandue. Mm-hmm. Dans une deuxième version, on va avoir le régime cétogène type Atkins modifié, où là, l'apport en glucides va être limité à très précisément entre 10 et 15 grammes par jour, avec les protéines et les lipides qui sont, eux, complètement à volonté pour tenter justement d'assurer ou d'arriver jusqu'aux besoins énergétiques quotidiens, mais qui sont basés sur de la théorie et non sur du réel, puisque nous occultons complètement et totalement les vrais besoins du corps. On est encore sur des calculs. Et enfin, le régime cétogène à index glycémique bas, où là, l'apport glucidique est limité à 40 grammes par jour, mais uniquement en choisissant en fait, des aliments à index glycémique bas. Vous savez, l'index glycémique, en fait, c'est la capacité que va avoir un aliment sucré à pouvoir augmenter notre glycémie. Et donc, dans ce régime-là,
c'est le taux de sucre.
Le taux de sucre dans le sang. Et dans ce régime-là, on cherche à avoir des index glycémiques inférieurs à 50 systématiquement. Et donc, encore une fois, on va avoir une recherche alimentaire poussée qui doit se réaliser tout le temps et en amont. Donc déjà, on peut entrevoir une des grandes complications, en tout cas au niveau du rapport alimentaire et du comportement alimentaire, qui est que à chaque fois qu'on va se retrouver à aller manger, on va devoir entreprendre des calculs pas possible. Et donc, à ce moment-là, à ce moment précis, quand on est dans notre mental à réfléchir, à calculer, on n'est plus présent à ce qu'on appelle l'instant T. Et donc, c'est difficile de faire les réels choix, quoi. On est un peu robotisé, comme j'appelle.
D'accord. Alors, ça, c'est une première introduction. On va évidemment étendre, détailler un petit peu tout ça. Donc, ces trois types de en fonction des proportions lipides, donc régime cétocène classique, cétocène type Atkins modifié et régime cétocène à index glycémique bas. Alors, écoutez, Déborah, on va faire une petite pause, histoire d'aller s'hydrater un peu. Et j'en profite pour signaler que vous pouvez, bien sûr, vous, auditeurs et auditrices, si vous le souhaitez, réagir ou poser des questions à Déborah. Pour cela, un numéro, le 06 66 94 59 02 ou directement sur la page de contact du site nutriradio.fr.
Tout va bien. Mangeons Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Nous voici en votre compagnie, Déborah, pour parler du régime cétogène. Vous êtes sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Alors, vous allez nous nourrir, évidemment, tout au long de cette émission, Déborah. Alors, vous avez parlé de ce régime cétogène, donc les trois types en fonction de proportion de lipides, etc. Est-ce qu'on peut peut-être expliquer un petit peu lipides-glucides? Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde se rappelle un peu ce qu'on entend par lipides ou par glucides.
Oui, bien sûr. Alors, les lipides, c'est tout simplement les graisses. En fait, on a trois grands macronutriments au niveau alimentaire, les glucides, les lipides et les protéines. Les glucides, c'est tout ce qui va être sucre. Les lipides, c'est les graisses, les matières grasses. Et les protéines, bah, en fait, c'est les protéines. Oui. Je ne vois pas d'autre appellation.
En tout cas, ça va dans la viande, c'est le poisson,
oui,
c'est
voilà.
Ça,
hein? Oui, exactement. Les glucides, on va retrouver ça dans tout ce qui est produits sucrés, les féculents, les fruits.
Donc les pâtes.
Tout ce qui est produits sucrés et puis certains aussi produits lactés. Les protéines, on va retrouver aussi dans certains produits lactés comme yaourt, fromage, etc. Mais également dans tout ce qui va être viande, poisson, œufs. On va aussi en retrouver dans certaines protéines végétales comme les légumineuses, les lentilles, enfin tout ce qui est légumineuses, lentilles, fèves, pois chiches, flageolets. On va en retrouver aussi dans le soja. Mmh. Et en l'occurrence, dans ces aliments-là, on va avoir des protéines et des glucides qui vont être à réduire un maximum dans ce régime cétogène. Et donc les lipides, c'est tout ce qui va être matière grasse, donc, y compris les aliments gras. Donc on va retrouver bien sûr les huiles, le beurre, tout ça, mais on va retrouver aussi l'avocat, les oléagineux, enfin vraiment tous les aliments qui sont très chargés en matière grasse.
D'accord. Et donc, je rappelle, comme vous le disiez, que ce régime donc cétogène, c'est un régime dans lequel l'apport en glucides est quasiment nul. Ce régime cétogène, quel va être son effet sur le poids ?
Et oui, parce qu'en l'occurrence, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, notamment pour essayer de perdre du poids, un peu en sorte de régime miracle, comme tous les régimes.
Et oui.
Et justement, ce qu'il est dit et les résultats qui sont obtenus à très court terme sont un peu spectaculaires. Mais donc, à court terme, effectivement, le régime cétogène, comme en réalité dans n'importe quel autre régime restrictif, va faire maigrir et va faire maigrir plutôt rapidement. Du coup, en fait, ça passe de par la production de corps cétoniques qui est générée par le manque de glucides. C'est-à-dire que quand on jeûne de manière générale ou quand on réduit drastiquement son apport en glucides, on a une sécrétion, ce qu'on appelle de corps cétoniques dans notre corps. Mmh. Et cette sécrétion, en fait, va induire une réduction de l'appétit. On va avoir moins faim, on va ressentir moins de faim, ce qui va se traduire par une réduction importante de l'apport alimentaire. On va se retrouver à moins manger, tout simplement. Cependant, à moyen, voire à long terme, en réalité, comme dans n'importe quel autre régime restrictif, dès lors qu'on va arrêter ce process, les résultats qu'on va avoir obtenus ne vont pas se maintenir. Et en réalité, nous assistons ensuite à une reprise du poids qu'on vient de perdre, si ce n'est plus. En vrai, c'est vraiment le grand principe de n'importe quel autre régime.
Oui, c'est vrai. On entend souvent les femmes, parce que ça se concerne surtout beaucoup de femmes, mais aussi les hommes, mais on entend souvent des personnes dire « voilà, j'ai perdu 10 kilos, mais j'en ai repris 15 ».
Et oui, mais c'est la conséquence majeure, en tout cas physiologique, au niveau des régimes qu'on peut entreprendre. Parce que quand on fait des régimes, c'est un traumatisme pour le corps. Mm-hmm. Et donc, en fait, le corps, après, il y a l'aspect physiologique qui a été en manque pendant un certain temps, donc on va se retrouver à manger beaucoup plus. Et il y a tout l'aspect cognitif et relationnel à l'alimentation qui a été perturbé et qui va faire qu'on peut avoir certaines conséquences. Mmh. D'ailleurs, je sens que vous allez me dire quelque chose.
Oui. Non, parce que du coup, je me disais, est-ce que ça veut dire que inconsciemment ou consciemment pour le corps, en tout cas, est-ce que le corps, lorsqu'il est privé de quelque chose, lorsqu'on va lui redonner, il va le stocker, par exemple ?
Alors non, il ne va pas le stocker physiologiquement, mais ce qui va se passer, c'est que cognitivement, psychologiquement, il va y avoir des mécanismes qui vont se mettre en place et qui vont nous faire, par exemple, amener à des pulsions alimentaires ou des compulsions alimentaires qui vont faire qu'on va perdre le contrôle devant l'aliment et qu'après, on va se retrouver de cette perte de contrôle à une mauvaise régulation des excès alimentaires en l'occurrence, et c'est comme ça qu'on va se retrouver à prendre du poids. C'est un des fonctionnements en fait, c'est pas le seul fonctionnement, mais en l'occurrence on le retrouve quasiment systématique, ça, quasiment systématiquement dans toutes les personnes qui ont fait des régimes, c'est-à-dire que ça impacte drastiquement le rapport à l'alimentation. Et en réalité, je rappelle au passage d'ailleurs que pour maintenir un poids perdu, il est absolument nécessaire que les actions qui ont été mises en place pour amener à ce poids soient fluides. Et en réalité, il faut que ça soit intégré dans notre quotidien, dans notre vie, et non pas notre vie qui s'arrête et qui se chamboule pour essayer de suivre une trame alimentaire. Oui.
En fait, vous voulez dire que quand on commence un régime, il faudrait que ce soit un régime toute la vie parce que c'est une nouvelle hygiène de vie, c'est ça en fait ?
C'est ça, c'est exactement ça, sauf que ça, ça n'est pas possible. En fait, on ne peut pas, dans notre vie, même si on est retraité, j'ai envie de dire, j'ai plein de patients qui me disent ça, on ne peut pas avoir des actions et manger de manière systématiquement identique tous les jours.
Oui, on n'est pas des poissons
en fait,
non plus.
On n'est pas des poissons, et même les poissons ne mangent pas pareil tous les jours. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots, et même une machine n'a pas tous les jours besoin du même nombre d'énergie. Mm-hmm. Donc en fait, comme ça, ça n'est pas fonctionnel d'un point de vue ni physiologique ni psychologique, à un moment donné, ça bug. Et les personnes qui ne bug pas, entre guillemets, en réalité, elles tombent dans les troubles du comportement alimentaire. Donc, on va retrouver des personnes qui souffrent d'anorexie, qui sont tombées dans de l'hyperphagie boulimique, qui ont de l'orthorexie. En fait, ça crée des troubles incontestablement.
Oui, parce qu'on s'habitue à quelque chose et finalement, socialement aussi, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte.
Oui, exactement. On n'a pas tous les jours la même vie et on ne peut pas manger tout le temps la même.
Oui, et quand on veut faire un brunch alors, une brioche, une pizza.
Oui, ça sous-entend en fait, et c'est une des conséquences aussi, que de s'arrêter de vivre. Et si on doit s'arrêter de vivre pour pouvoir suivre un mood alimentaire, ça n'est pas fonctionnel. Et donc, les résultats qu'on a obtenus par ce mood ne seront pas viables à long terme. Ce qui paraît logique, en fait. Hein.
Oui, bah oui, puis notamment quand on est sportif, par exemple, il ne s'agirait pas de priver son corps de ce qui est important pour créer du muscle.
Et pour avoir de l'énergie, bien sûr. Et donc, en réalité, ce régime cétogène, en plus d'être assez difficile à maintenir sur le plan psychologique, parce que il faut calculer tout le temps, il faut être tout le temps dans la maîtrise, etc., comme dans d'autres régimes, ça impacte beaucoup la relation à soi et à l'alimentation en générant une espèce de peur alimentaire via les aliments interdits et autorisés, quoi. Mmh. Et du coup, par l'échec de ce régime ayant souvent un effet culpabilisant. C'est-à-dire, comme les personnes n'arrivent pas à suivre ce régime sur du long terme, elles pensent que c'est de leur faute, c'est de ma faute si j'arrive pas à suivre, alors que c'est le régime qui est complètement foireux et qui n'est pas ajusté et adapté à leurs difficultés. Mmh. Et donc, ça impacte l'estime de soi, la relation à soi, et ça perturbe la relation à l'alimentation. Vous imaginez si on vous dit, à partir de demain, tu n'as plus le droit de manger deux pains au chocolat. Et en fait, vous allez générer. je suis d'accord avec vous. Mais ça va générer en fait une sorte de peur vis-à-vis de ce pain au chocolat. Mm-hmm. Mentalement, vous allez vous dire, j'ai pas le droit, c'est quelque chose de mal, c'est malsain, c'est mauvais. Et à partir de là, y a les restrictions qui se mettent en place. Et qui dit restriction dit début des problèmes en fait
Parce que frustration, tout simplement aussi. Hein.
Parce que frustration, exactement. Mm. Et donc ça, c'est d'un point de vue psychologique. Sur le plan santé, Il y a beaucoup d'études qui ont relaté que le régime cétogène menait à des risques cardiaques qui sont liés au déficit, notamment en sélénium, et des risques de lithiase rénale, de pancréatite, et bien évidemment des déficits en certaines vitamines et minéraux. Donc en réalité, rien n'atteste scientifiquement de l'intérêt du régime cétogène, en tout cas sur le poids, par rapport aux autres régimes restrictifs ou pauvres en glucides déjà existants. Le fonctionnement, en réalité, le fonctionnement restrictif mène absolument au même impact sur le comportement et sur la relation à l'alimentation.
Vous parliez de risques cardiaques liés au déficit en sélénium. On peut rappeler ce que c'est le sélénium peut-être pour nos auditeurs ?
Le sélénium, en fait, c'est un minéral qu'on trouve dans l'alimentation et qui joue un rôle important dans la régulation du rythme cardiaque. Et du coup, comme on en manque, eh ben en fait, ça peut amener à un risque cardiaque.
Il y a peut-être aussi d'autres problèmes, notamment par exemple par rapport aux personnes diabétiques. Qu'est-ce qu'il en est de l'équilibre glycémique pour ces personnes, déjà au-delà de ça, pour nous bien sûr, mais aussi pour elles?
Oui, pour elles, parce que justement, dans les personnes qui prônent le régime cétogène, elles vantent des effets spectaculaires en fait, au niveau de l'équilibre glycémique, et notamment de la glycémie glyquée. Enfin, de l'hémoglobine glyquée, vous savez, c'est l'hémoglobine. L'hémoglobine glyquée, c'est en réalité le reflet de l'équilibre alimentaire sur 3 mois d'une personne. Et quand on est diabétique, on a un certain pourcentage à maintenir. C'est ce qu'on regarde pour voir si justement le diabète est plutôt équilibré. Et effectivement, alors pareil, le régime cétogène de base a un effet spectaculaire sur l'hémoglobine glyquée, c'est vrai. En la réduisant considérablement. Sauf que la réduction drastique des apports glucétiques s'accompagnant d'une amélioration du contrôle de la glycémie. Seulement, même si le régime cétogène semble plus efficace sur ce point que d'autres régimes restrictifs, il semble important de se demander si cette efficacité est réellement due au régime en lui-même ou tout simplement une restriction calorique sévère que ce régime impose, mais qui n'est pas tenable à long terme. C'est-à-dire que si on rééquilibre, en fait, si on fait un réajustement des quantités en travaillant sur le comportement alimentaire, ça amènerait au long terme, en tout cas, au même résultat que ça. Donc ici encore, les études menées penchent sur le fait que ce bénéfice est davantage lié à la restriction alimentaire et à la perte de poids générée par ce régime, mais non au régime en lui-même spécifiquement. Donc, ainsi, contrairement à ce qui peut être affirmé partout, les régimes cétogènes ne traitent pas le diabète. C'est juste une modification de l'alimentation qui amène à une modification des constantes vitales. Quoi.
C'est vrai que c'est important de le dire, et c'est important de dire aussi, même pour des personnes qui sont atteintes de troubles de ce type, que bien évidemment, il faut consulter un médecin. Quand on fait ce genre de régime, on n'y va pas comme ça.
Je ne conseille pas du tout de faire ce genre de régime. Oui. Je conseille d'aller consulter...
Quel qu'il soit, j'entends, je voulais dire. Mais
un diététicien, en tout cas pour travailler l'alimentation, je conseille un diététicien, un nutritionniste, parce que c'est le seul professionnel qui est garant de l'alimentation. Alors, bien sûr, il y a les médecins nutritionnistes également, mais ça va être un travail relativement différent en général. On ne travaille pas de la même façon et il faut faire très attention parce que le titre de nutritionniste n'est pas protégé. Donc, des fois, vous allez avoir des médecins nutritionnistes qui ne sont pas diplômés ou formés en nutrition. Donc, faut faire attention à qui vous allez voir. Mais effectivement, quand on est diabétique, on doit être suivi avec un endocrino, on doit avoir tout un panel, on doit aller voir le podologue. En fait, on doit s'intéresser à sa santé sur tous les aspects que le diabète peut toucher. Et donc, il y a la podologue, il y a l'endocrino, il y a la diététique, enfin, il y a plein d'aspects. Oui. Donc, c'est très important.
On répète, Déborah a dit, contrairement à ce qui peut être affirmé partout, le régime cétogène ne traite pas le diabète.
Exactement. Voilà. Ce n'est pas le régime cétogène en soi qui améliore le diabète.
Voilà, donc il faut juste réajuster les quantités, c'est ça ?
Exactement. À mon sens, c'est un réajustement des quantités et de l'équilibre alimentaire de manière générale, en fait. Mais sans forcément partir dans des restrictions, dans des choses hyper contraignantes et très dangereuses pour le corps, en tout cas.
Eh bien, écoutez, on va en parler encore. On en profite avant de continuer pour faire une petite pause. Alors, profitez-en pour vous munir d'un crayon, d'un papier pour noter toutes ces informations. Sinon, vous pouvez aussi retrouver, bien sûr, toutes les archives et réécouter les émissions de Déborah sur le site de Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit.
Tout va bien. Mangeons, Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Nous sommes de nouveau en compagnie de Déborah sur Nutri Radio, la radio qui soigne le corps et l'esprit. Le thème de cette semaine avec vous, Déborah, c'est le régime cétogène. Alors, que penser de ce régime pour notamment des choses beaucoup plus graves, enfin des traitements beaucoup plus graves, notamment celui du cancer par exemple?
Et oui, parce que c'est aussi un des penchants des défenseurs de ce régime, que ce régime traite le cancer. Alors déjà, si c'était le cas, je pense qu'il n'y aurait plus de cancer dans le monde.
C'est clair.
Et ça serait génial. Hein. On aimerait bien que ça fonctionne. Et même si des hypothèses, justement, ont été mises, il n'a jamais été démontré que la suppression du sucre dans son alimentation permettait la suppression des cellules cancéreuses chez l'être humain. Selon le rapport scientifique du Réseau National d'Alimentation Cancer Recherche, le NACRE, il n'existe hélas aucune preuve d'un quelconque bénéfice d'un régime pauvre en glucides et donc du régime cétogène pour traiter le cancer.
On dit qu'effectivement, ça ne permettrait pas la suppression des cellules cancéreuses, donc le sucre. Par contre, il est dit, alors c'est une question, que le cancer s'alimenterait malgré tout plus avec le sucre. Est-ce que c'est vrai ?
Bah, en tout cas, c'est pas validé par le réseau NACRE du tout.
Ouais. Donc ni la suppression, ni le fait qu'ils s'en nourrissent quand même un petit peu.
Bah, après, effectivement, moi je pars toujours du principe où c'est important de respecter un équilibre alimentaire de manière générale. Et dans un équilibre alimentaire, il n'y a pas d'aliments qui sont plus prédominants que d'autres. Tout est en équilibre, vous voyez. Donc effectivement, améliorer sa qualité alimentaire en travaillant son rapport alimentaire et sa façon de manger, c'est tout à fait bénéfique à avoir plus de chances d'être en meilleure santé. Pour autant, c'est pas ça qui va faire en sorte que le cancer va disparaître et que on va guérir. Vous imaginez, si c'était vrai, ça serait miraculeux. Il y aurait eu un prix Nobel qui serait décerné.
Bien sûr.
Ça serait génial, parce que il me semble que c'est la première cause de mortalité, je crois.
Il y a le paludisme juste avant.
Il y en a plusieurs, c'est quand même.
C'est vrai que c'est une maladie qui est très. Mais c'est vrai que beaucoup de gens, malgré tout, avec cette problématique-là, recherchent autant qu'ils le peuvent des solutions. Et si on tombe sur des gens qui sont des sites, etc., il faut vraiment faire très très attention, effectivement, comme vous disiez, où on met les pieds. On va voir un nutritionniste, on va voir une personne qui s'y connaît, comme vous, Déborah.
mais c'est normal, hein, bien sûr, j'entends complètement. Quand on souffre de cancer, on essaye plein de choses par tous les moyens, c'est tout à fait logique.
Jusqu'à maintenant, on a parlé effectivement que des inconvénients, en fin de compte. Hein. C'est vrai qu'on on est un peu négatif là pour la rentrée, non? Mais non.
C'est la prévention.
Voilà. Mais est-ce qu'il y a un domaine justement où ce régime peut quand même être favorable? Est-ce qu'il s'adresse quand même à un type de personne, enfin une catégorie de personnes?
Oui, en fait, il y a un domaine où ce régime peut apporter des bénéfices. C'est en fait pour traiter l'épilepsie sévère.
Ah, quand même.
L'épilepsie sévère qui résiste à tout traitement médicamenteux. Et en fait, il semble y avoir une bonne option thérapeutique justement pour ces effets anticonvulsants. C'est-à-dire que le régime cétogène, dans ce cas précis, ça amène à réduire les convulsions. Et donc, l'action se ferait, pour les personnes qui se demanderaient comment, par la synthèse de la glutamine, qui est un précurseur de l'acide gamma-aminobutyrique, l'acide GABA, et qui favorise, en fait, pour résumer, un état de calme un peu dans le cerveau. Donc, sur le long terme, même, les effets semblent également perdurer en réponse à la production de corps cétonique, encore une fois, et l'augmentation des acides gras libres, des graisses, en fait, libre à la diminution du glucose qui impacterait en fait sur les mécanismes épigénétiques. Et donc le régime aurait également une action sur la diminution du stress oxydatif et de l'inflammation qui va être générée. Donc dans ce cas-là, effectivement, les études montrent qu'il y a des... C'est plutôt pas mal.
C'est quoi le stress oxydatif?
Le stress oxydatif, c'est... comment expliquer ça? En fait, quand on respire, l'oxygène en fait va produire une oxydation dans le corps, et ce qui fait que si on a une alimentation déséquilibrée, si on n'apporte pas suffisamment d'antioxydants, en l'occurrence, on va avoir ce qu'on appelle une oxydation.
Une inflammation, ce qu'on appelle, du coup.
Hein, voilà, un stress oxydatif qui va générer aussi de l'inflammation.
Oui, je vois que le temps avance à une vitesse dingue. Avec vous, c'est hallucinant. On a fait 3 questions et poum, on est déjà à la fin de l'émission. Alors, si on veut, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire?
Pour conclure, en tout cas, pour ma part, jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'en ce qui concerne l'obésité ou le diabète, la diète cétogène ne fait pas plus de miracles que de n'importe quel autre régime restrictif, ou non d'ailleurs, hein, qu'on entreprendrait pour perdre du poids, que d'ailleurs je ne conseille pas. Le mécanisme reste exactement le même, à savoir appliquer des règles mentales qui nous déconnectent des besoins du corps, qui nous amènent à suivre un cadre ou un programme bien défini, qui nous exclut, comme on le disait tout à l'heure, absolument de toute liberté. Et donc, comme dans n'importe quel autre régime restrictif, le régime cétogène est susceptible d'accentuer les dégâts sur le long terme, tant sur la santé que sur l'aspect cognitif.
Oui, c'est important.
Et donc, dans l'unique cas de l'épilepsie, effectivement, on l'a vu, le régime cétogène semble intéressant. Mais si c'est le cas, il doit être mené avec prudence, car des carences sévères sont en devenir, notamment sur la vitamine A, E et B12 et sur la vitamine D. Des carences également en calcium, en magnésium, ainsi qu'en sélénium et en cuivre. Donc, dans ces cas-là, une supplémentation est vraiment à prévoir en prévention. Et en plus d'avoir un accompagnement médical bien structuré et cadré sur une personne qui sait de quoi elle parle. Quoi.
Oui, oui, tout à fait. Ça, on ne cessera jamais de le dire. C'est vrai qu'il faut quand même toujours un accompagnement médical. C'est très, très important. Eh bien, écoutez, Déborah, merci infiniment pour cette émission sur le régime cétogène. Donc maintenant, vous savez tout. Cette émission va être disponible dans son intégralité à partir de dimanche 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Un dernier petit mot peut-être, Déborah?
Eh ben non, mais avec plaisir. Merci à vous. Merci à
très bien.
Qui nous écoutent. À très bientôt.
Eh ben, on se retrouve donc la semaine prochaine. Oui. Merci beaucoup, Déborah.
Merci.
Au revoir.
Tout va bien. Mangeons Déborah Ohana sur Nutri Radio.